Vous écoutez, on lit pour vous.
Une clinique destinée aux Autochtones qui donne envie de prendre soin de soi. Un texte de Florence Morin-Marteuil paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir. Depuis son ouverture officielle en avril 2024, la première clinique de santé familiale axée sur les besoins autochtones à Montréal a déjà pris en charge plus de 200 personnes. Avec son ambiance calme et accueillante, ce centre situé dans le quartier Saint-Henri donne envie de prendre soin de soi, témoigne l'une des patientes de l'endroit. Au passage du Devoir, une odeur de sauge embaumait les lieux. À l'image de sa clientèle autochtone diversifiée, la clinique affiche sur ses murs clairs des œuvres d'artistes provenant de différentes communautés au Québec et au Canada. Dans ce centre, qui est rattaché au groupe de médecine de famille universitaire de Verdun, une omnipraticienne travaille à temps partiel et une infirmière à temps plein. Elles y traitent notamment des familles, des nouveau-nés et plusieurs personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète. La directrice de la santé et du bien-être de la clinique familiale Montréal autochtone, Evie Colec, remarque que, dans les derniers mois, plusieurs patients sont revenus au centre pour des rendez-vous de suivi. C'est bon signe. Je suis assez impressionnée de voir comment nous avons réussi à bâtir une clientèle en si peu de temps, se réjouit-elle. Selon elle, les efforts du personnel pour rendre la clinique accessible y sont pour beaucoup. Par exemple, s'il est trop difficile pour certaines personnes de venir ici, on va s'arranger pour qu'elles aient du transport. Tout comme Mme Olek, les deux professionnels de la santé qui travaillent dans la clinique ne sont pas autochtones. L'infirmière et la médecin avaient toutefois travaillé par le passé avec des personnes issues de ces peuples et avaient été bien formées à leur réalité, indique la directrice. Ici, on prend bien le temps d'établir le lien de confiance, ajoute-t-elle. Lien spirituel et culturel. En plus des deux soignantes, le centre compte deux gardiens du savoir qui sont originaires de la communauté Mohawk de Kanawake. Étant donné qu'ils sont garants des enseignements traditionnels, des connaissances culturelles et des liens spirituels, ils sont respectés dans les diverses communautés autochtones, précise la clinique sur son site Internet. Ces deux gardiens du savoir se déplacent régulièrement au centre pour offrir des consultations aux patients. Ils tiennent leur rencontre dans une grande salle munie de larges fenêtres et de murs en bois de cèdre. Rencontrée sur les lieux, Minnie Ananak O'Connor, une mère inuite de 38 ans qui fréquente la clinique depuis le printemps 2024, raconte avoir passé beaucoup de temps dans ce local avec l'un des gardiens. Il ne me pose pas beaucoup de questions, il m'écoute surtout. J'ai l'impression que cette pièce me permet naturellement de dire ce que j'ai à dire, affirme-t-elle d'une voix douce et basse. L'ensemble du personnel de la clinique l'a fait se sentir bien, ajoute-t-elle en buvant un café. La médecin a entre autres su prêter une oreille attentive à ce qu'elle avait à dire. Mon premier rendez-vous ici avec elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ma santé est importante. Madame Ananak O'Connor rapporte éprouver fréquemment d'intenses douleurs étant donné qu'elle est atteinte d'endométriose. Cette maladie se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Or, elle estime que ces maux n'ont souvent pas été pris au sérieux par le passé. Auparavant, dans certains milieux médicaux, j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place, d'être une nuisance ou d'être méprisée. Mais ici, à la clinique, j'ai trouvé qu'il était facile de sentir que ma santé et ma vie ont de l'importance, dit-elle, la voix nouée par l'émotion. Autrefois, Minnie Ananak O'Connor avait tendance à repousser les rendez-vous chez le médecin, confie-t-elle. Je priorisais le fait d'aider les autres, comme ma mère par exemple. Mais à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas faire ces choses si je ne prenais pas soin de moi. Naviguer dans le système de santé. En tout, on trouve plus de 46 000 autochtones dans la région métropolitaine de Montréal. Avoir un centre de médecine familiale destiné à cette population était nécessaire, car plusieurs autochtones ont des traumatismes en lien avec le système de santé, relève Evie Colec. Bon nombre d'entre eux ont été stigmatisés lorsqu'ils se sont rendus dans les hôpitaux ou ont été témoins de racisme vécu par leurs proches dans ces milieux, renchérit Rachel Albert, une métisse de la Rivière-Rouge qui est navigatrice santé au centre. Au quotidien, le rôle de Mme Albert est d'aider les patients autochtones à s'orienter à travers les méandres du système de la santé. Elle accompagne donc les usagers qui requièrent du soutien, par exemple pour aller rencontrer des médecins spécialistes hors de la clinique. Elle peut entre autres les aider à mieux comprendre le jargon médical, explique-t-elle. Des patients qui traversent des périodes difficiles peuvent également avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour réussir à venir à leur tout premier rendez-vous au centre, raconte-t-elle. Il lui arrive donc de faire des promenades avec certains d'entre eux afin d'établir un premier contact et discuter. L'idée pour nous est de s'assurer qu'ils savent bien que nous sommes là pour eux, n'importe quand, affirme Rachel Albert. C'était une clinique destinée aux Autochtones qui donne envie de prendre soin de soi. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir.
Une nouvelle culture, les origines de la conservation de la faune et de la forêt. Un texte de Paul-Louis Martin paru à l'été 2023 dans la revue Cap au Diamant. Une valeur nouvelle. Les origines de la conservation de la faune et de la forêt. Lorsque survient le changement de régime colonial à la fin du 18e siècle, l'environnement naturel dans la vallée du Saint-Laurent n'a pas encore subi de grandes transformations. On a bien prélevé, ici et là, les bois de chêne et de très grands pins pour la construction navale à Québec. Les habitants ont aussi construit leurs habitations avec le bois de leurs défrichements, mais les forêts denses de l'arrière-pays restent intactes. L'eau de la majorité des rivières a conservé son débit et sa qualité d'origine au point où, là où les saumons les fréquentent, en grand nombre, comme dans la rivière Saint-François, on les capture dans de larges filets et on les exporte, dûment éviscérés et salés, par centaines de tonneaux. Quant aux grands gibiers, wapitis, caribous et orignaux, récoltés très tôt et en nombre important pour la valeur de leur peau, ils ont retraité dans la profondeur du pays, selon Pierre Boucher, dans son mémoire de 1663. En somme, les Britanniques prennent pied dans un territoire partiellement domestiqué, certes, mais surtout doté de vastes espaces sauvages, dont ils entendent bien s'approprier les ressources et les mettre en valeur sans tarder, comme l'avaient fait avant eux les Français. Dans le bagage culturel qu'ils apportent avec eux, ceux qui se considèrent comme les maîtres du pays comptent depuis plus d'un siècle la pratique d'un loisir en plein air, qui leur appartient en propre, une activité sportive unique, presque un art, prétendent ses adeptes, la pêche à la mouche, au saumon et à la truite. À lire les premiers auteurs qui définissent l'essence et le code de cette activité, il s'agit bien d'un loisir réservé à une élite. Une activité que ne peut se permettre qu'un individu indépendant de fortune, possédant suffisamment de temps libre pour le consacrer à la contemplation des beautés de la nature et de la forêt, des rivières aux eaux vives, des lacs aux eaux claires, et de la vie qui s'y trouve. Le pêcheur à la mouche est aussi un homme patient, calme, un observateur perspicace des milieux sauvages, un amoureux de la poésie et un ami des belles-lettres. Ce portrait décrit en tout point l'un des principaux théoriciens de la pêche à la mouche, Isaac Walton, qui se définit, en 1653, comme un véritable contemplateur de la nature. « The complete angler » or « The contemplative man's recreation ». Il est suivi par deux émules, le poète Charles Coton et l'amiral Robert Venables, tous deux pêcheurs et à leur tour auteurs de traités. Cet art de la pêche à la mouche va croître jusqu'à devenir au fil du temps une part de l'identité sociale, la marque d'une élite anglo-saxonne fortunée. On ne s'étonne donc pas de découvrir, figurant sur une aquarelle de 1782, la première représentation connue d'un pêcheur à la mouche, tenant à la main sa longue canne caractéristique. Il est représenté en compagnie de sa famille et de son guide local sur les bords d'une fosse de la rivière Montmorency. Par la suite, plus qu'un simple sport et un marqueur social, cette activité en plein air va gagner en popularité pour se répandre partout au pays. Les pêcheurs sportifs vont figurer parmi les premiers personnages influents à donner l'alerte face à la dégradation des environnements naturels. Les militaires et leurs loisirs. Les premiers témoignages écrits qui nous sont parvenus sur la chasse sportive et la pratique de la pêche à la mouche datent du début du 19e siècle. Ils proviennent d'auteurs qui appartiennent à l'institution militaire, Major Brown, Colonel John Jeremish Bixby, Dr. Walter Henry, Major Ruskin, Lieutenant Frederick Tolfrey, autant de membres de l'armée britannique en poste à diverses périodes dans la garnison de Québec. Pourquoi trouve-t-on autant de pêcheurs à la mouche et de chasseurs sportifs chez ces militaires? Il y a d'abord la connaissance du pays à développer et la bonne santé physique à maintenir. S'y ajoute la solde régulière, ce montant d'argent que reçoit le militaire et qui le range parmi les membres privilégiés de la société. Finalement, il faut bien reconnaître que la pêche à la mouche est déjà inscrite dans une tradition plus que centenaire des loisirs britanniques au moment où ceux-ci commencent à découvrir les rivières à saumon les mieux conservées et les plus accessibles. Dans cet esprit, le récit le plus ancien et aussi le plus détaillé qui nous soit parvenu de la pêche à la mouche et de la chasse au petit gibier est celui d'un jeune officier, le lieutenant Frederick Tolfrey, qui a séjourné à Québec de 1816 à 1818. Le jeune sportif est accueilli par un collègue, le major Brown, qui a déjà apprivoisé autour de Québec les meilleurs champs marins pour y chasser la sauvagine et les plus belles rivières pour y taquiner le saumon. Parmi celles que fréquentent déjà les militaires, il y a surtout la rivière Jacques-Cartier, à l'ouest de la capitale. Tolfrey va y connaître ses plus belles excursions de pêche au saumon. « C'est l'une des plus belles rivières au monde », écrit-il, et on doit le croire, puisqu'au moment où il publiera son récit en 1845, il aura aussi pêché le saumon en Écosse, en Angleterre et en France. Son témoignage est un modèle du genre. Le lecteur y trouve des conseils sur les mouches artificielles les plus appropriées au cours d'eau, le meilleur bois de la canne à pêche, la bonne couleur de la teinture du fil et des soies et bien sûr, la localisation des meilleures fosses. Il vante enfin la qualité de l'hébergement chez la veuve très hospitalière qui exploite la maison du péager du Pont des Ris à Pont-Rouge. On compte plusieurs dizaines de volumes de ce genre, majoritairement de langue anglaise, ainsi que des mémoires et de brefs témoignages écrits, présentés devant des sociétés savantes comme la Quebec Literary and Historical Society. jusqu'au milieu du 19e siècle, les auteurs semblent encore peu préoccupés par l'état des ressources. Mais voilà que se manifestent les premiers signes d'une exploitation effrénée de ces richesses forestières et fauniques. C'est le saumon qui est menacé le premier. Les populations des 24 rivières de la côte nord, entre les mains de la Hudson's Bay Company, et les 16 rivières de la baie des Chaleurs font l'objet de captures industrielles. D'immenses filets, soit des seines cousues ensemble, barrent le cours des eaux au moment des montaisons et permettent des prises quasi inimaginables. En 1805, pas moins de 13 000 tierces de saumon salé, soit des tonneaux de 350 livres, capturés à l'embouchure de la rivière Restigouche, qui comprend aussi les eaux des rivières Matapédia, Patapédia et Kozapskal, ont été expédiés en Angleterre par une dizaine de navires chargés à ras-bord. Or voilà que l'alerte est enfin donnée. L'arpenteur Joseph Bouchette, dans son rapport de 1831 sur l'état des ressources, signale que les captures dans toute la baie, habituellement de 2000 ou 3000 tierces, ont été réduites à seulement quelques centaines de tonneaux en moins de 15 ans. La diminution devient à ce point effarante qu'en 1849, l'inspecteur des pêcheries du Nouveau-Brunswick, Moses H. Purley, rapporte aux autorités de la province voisine qu'à ce rythme, le saumon va bientôt disparaître de la Restigouche. L'un de ceux qui comprend le mieux la nécessité de changer ses rapports à la nature est un ex-membre de la marine britannique, également passionné de la pêche à la mouche, Richard Nettle. Né en Angleterre en 1812, Nettle avait eu le loisir de pêcher le saumon dans la rivière Tamar, dans le Devonshire, avant que l'exploitation des mines ne pollue la rivière et en élimine le poisson. Bousculé par un tel événement, sa passion pour la pêche au saumon allait inspirer l'un de ses projets scientifiques, la pisciculture. Venu une première fois à Québec en 1838 en tant que membre de l'équipage de la frégate Hastings, qui amenait Lord Durham et sa suite, il y revient 4 ans plus tard, après avoir quitté le service de la marine. Il se fixe alors dans la capitale et déclare « travailler comme instituteur ». Il a maintes et maintes fois l'occasion de se livrer à son sport préféré, la pêche à la mouche, au saumon et à la truite, au cours des 15 années suivantes. Il publie d'ailleurs le récit de ses excursions de pêche sous le titre « Fishing in Canada » en 1857. Sa notoriété lui vaut quelques mois plus tard d'être nommé surintendant du nouveau service des pêcheries que vient de créer le gouvernement du Canada uni. Pierre Fortin, l'adjoint de Nettle, qui est aux commandes de la goélette la Canadienne, s'occupera de surveiller les pêcheries dans le golfe, gravement menacées par la surpêche et les déprédations des équipages américains. Nettle, de son côté, inspectera et relèvera les captures de saumon dans les petites et grandes rivières de la rive nord du fleuve, depuis les Escoumins à l'est, jusqu'à la Pérade à l'ouest, et dans toutes celles de la rive sud, jusqu'à Cap-Chat. Vous écoutez Une nouvelle culture, les origines de la conservation de la faune et de la forêt, un texte de Paul-Louis Martin, paru à l'été 2023, dans la revue Cap aux Diamants. Le résultat de ces inspections soulève de grandes inquiétudes. Une rivière comme celle des Escoumins, qui accueillait autrefois de 200 à 300 saumons par marée et que fréquentaient assidûment les pêcheurs sportifs de Québec, n'en compte plus un seul depuis qu'un barrage et un moulin à scie ont été construits un peu plus haut. Et la même situation se répète tout au long de ces visites. Ici, ce sont des barrages sur quelques tributaires du Saguenay et sur les rivières Murray et Malbaie. Là, c'est en plus le harponnage du saumon sur les rivières Portneuf et Sainte-Anne en haut. Là encore, c'est la surpêche au filet sur la rivière Saint-Charles ou celle que fait Louis Derry à la Foëne et au filet sur la Jacques-Cartier pour approvisionner le marché de la capitale. Il reste une solution, tenter l'expérience de la pisciculture récemment réussie tant en France, dans les Vosges, qu'il a visité en 1842, qu'en Irlande. Il faut repeupler sans tarder les cours d'eau qui offrent de bonnes conditions. Avec l'appui et le soutien du premier ministre Étienne Paschal-Taché, Nettle va construire son premier bassin, son ovarium, comme il le nomme, bien abrité dans la cour arrière de son bureau, au coin des rues Sainte-Ursule et Saint-Jean à Québec. Selon le reporter du Morning Chronicle, qui visite les lieux à l'automne 1857, il réussit à produire des alevins de truites et plus tard de saumons. Dans les années suivantes, soit jusqu'en 1864, les saumonneaux sont élevés à Sillery dans l'étang de la villa Marchmont, appartenant à John Gilmore, avant d'être expédiés dans les rivières les plus dépeuplées de la côte nord, que sont la Mingan, la Godbout, la Pie et la Saint-Jean. Nettle est depuis considéré comme le père de la pisciculture au pays et l'un des sauveurs de la pêche à la mouche. Des clubs très privés pour la protection du poisson et du gibier. L'accroissement naturel de la population du Bas-Canada et l'immigration ont provoqué le débordement des forestiers et des colons au-delà de l'ère seigneuriale, vers les Piémonts des Laurentides au nord et des Appalaches au sud. Les conséquences de leur récolte sans frein provoquent les alarmes. En 1855, la Montreal Natural History Society craint la disparition de l'orignal que des parties de chasseurs et de braconniers abattent de façon sauvage pour sa viande ou pour sa peau. Quant à Richard Nettle, il ne cesse de constater les dégâts causés aux rivières par les moulins à scie qui se sont multipliés sur les centaines de cours d'eau de la province, barrages, flottage des billes, détournement de cours d'eau, rejet des sciures et surtout braconnage éhonté du saumon, des truites et autres poissons, de nuit, au harpon ou au filet, au pied des barrages. La situation est grave, il faut agir de toute urgence. C'est la même tragédie aux États-Unis. L'heure est venue de mettre un frein à l'exploitation abusive et sans contrôle des ressources naturelles, forestières d'abord, mais aussi fauniques. Le Congrès des forestiers américains, tenu à Montréal en 1882, avait sensibilisé le commissaire des terres de la Couronne du Québec, W.H. Lynch, sur la valeur irremplaçable des richesses forestières et sur l'obligation de veiller à leur conservation. La création par les Américains des premiers parcs nationaux, dont Yellowstone, ne pouvait toutefois être envisagée ici, du moins pas dans l'immédiat par le gouvernement. Celui-ci était déjà sollicité par d'urgents besoins et il ne disposait que de moyens plutôt maigres, soit un seul inspecteur des pêches pour la partie ouest, 15 gardes-pêche dans le golfe et 7 gardes-chasse pour tout le Québec. Une occasion d'agir se présente néanmoins aux autorités. Un litige perdurait depuis 13 ans entre le gouvernement d'Ottawa et les provinces concernant les droits de pêche dans les eaux intérieures et la propriété des rives bordant les plans d'eau et les rivières non navigables. En avril 1882, un jugement de la Cour suprême vient confirmer la propriété de la province sur ces éléments, lui permettant alors d'avancer plus sûrement dans la mise en valeur des milliers de lacs et de cours d'eau de son territoire. Or, l'une des solutions qui se présente s'inspire de deux concessions de rivières qu'Ottawa a accordé en 1871 à deux magnats des chemins de fer, l'ingénieur Sandford Fleming de l'Intercolonial et George Stephen, futur président du Canadien Pacifique. Ces deux passionnés de la pêche au saumon se sont empressés de fonder chacun leur club privé, le Matamajaw sur la Matapédia et le Restigouche Salmon Club. Ce modèle de concession de territoire sauvage, dorénavant accessible grâce au chemin de fer, permet alors aux nouvelles élites financières de pratiquer leur sport préféré. Il offre surtout l'avantage pour les autorités de leur transférer les charges de la protection et de la surveillance des ressources. Le Québec n'ignore donc ni l'existence ni l'intérêt de ce type de location au moment où, en 1880, il doit répondre à une première demande de réserve territoriale de pêche et de chasse soumise par deux entrepreneurs forestiers. Les requérants de ce club de sportsmen, le club Winchester, sont un riche Américain, William H. Parker de Glen Falls, New York, représentant local de la Beaver Lumber Company, et Louis-Alphonse Boyer, propriétaire d'un moulin à scie et ex-député de Maskinongée à la Chambre des communes. Le territoire exclusif que Québec leur attribue est situé autour du lac Perchaude, au nord de Saint-Élie-de-Caxton. C'est un joyau naturel comprenant plusieurs lacs et cours d'eau poissonneux qui attire rapidement une cinquantaine d'autres sportifs montréalais financièrement aisés, tout aussi passionnés pour la pêche à la mouche et qui déboursent la somme de 100 $ à titre de frais d'adhésion à ce club exclusif. La bonne nouvelle de ce véritable paradis pour les adeptes de la pêche se répand rapidement chez les capitaines d'industrie et les bourgeois du commerce qui frappent à leur tour à la porte du commissaire des terres pour former d'autres clubs sur ce même modèle. Voit ainsi le jour le club Shawinigan en Mauricie, suivi du club des Laurentides, rassemblant les élites financières de la capitale, Boswell, Chinique, Method, Holmes et autres. Au fil de l'annonce de nouvelles voies ferrées, celles du chemin du Nord ou du lac Saint-Jean, les demandes de concessions de territoire et d'incorporation de clubs ne cessent de parvenir au gouvernement. À un point tel que le premier ministre Joseph-Alfred Mousseau confie au commissaire des terres le soin d'élaborer le modèle de concession le plus convenable dans les circonstances, visant d'une part à satisfaire cette demande nouvelle de loisirs et, d'autre part, à assurer une meilleure conservation tant du poisson que du gibier. Les conditions générales et les autres modalités de la concession de territoire prirent la forme d'un bail, décrivant précisément les limites du territoire, les obligations du locataire, le respect des règles de capture, la tenue d'un registre des prises, la présence d'un gardien et le loyer annuel. Ces dispositions figurèrent dans la loi au titre éloquent d'actes pour faciliter la formation en cette province de clubs pour la protection du poisson et du gibier, adopté en 1885. De 50 clubs créés entre 1885 et 1896, le nombre passera à 300 en 1914 et à près de 600 avant la Seconde Guerre mondiale. Avant l'augmentation considérable de leur nombre, on en comptait près de 2000 après 1950, le portrait d'un club de moyenne envergure présentait le profil suivant. Le nombre de 50 membres semble bien avoir eu la préférence des requérants d'une incorporation. Pour des raisons de santé financière, de vie associative, de capacité de fréquentation et d'hébergement dans les installations, de droits d'invitation, etc., ce nombre de membres semblait idéal. le coût du membership dans le club, fixé dès l'origine à 100 $, s'accompagnait d'une cotisation annuelle minimale de 35 $, pouvant varier selon les clubs et leurs besoins de développement. Cette cotisation représentait encore au début du 20e siècle 5 semaines de salaire d'un travailleur moyen. Certains clubs se dotaient de chalets, d'immeubles, camps et dépendances parmi les plus modernes et les plus confortables de la région. Le club Triton, le plus prestigieux de tous, comptait à l'origine 150 membres, en majorité des Américains, qui avaient déboursé 300 $ comme droit d'entrée, soit le prix d'une petite maison neuve. L'histoire de ce club et de sa fréquentation par les élites financières et politiques des États-Unis et du Canada a fait l'objet de plusieurs publications encore facilement accessibles. Les Vanderbilt, Rockefeller, Colgate, Roosevelt, Macmillan et Churchill y ont tiré leurs lignes, guidés par des Wendats expérimentés comme les Siwi, Gros Louis, Vincent et autres, vivant à l'ancienne Lorette. Jusqu'au milieu des années 1930, la technique de pêche exigée dans tous les clubs était évidemment la pêche à la mouche. Les adeptes de cette pêche, comme à l'origine au XVIIe siècle, estimaient pratiquer un art ou une science d'un grand raffinement. Leurs seuls adversaires, les saumons et les truites, étaient rois ou princes des eaux douces. Ces magnifiques poissons vivaient près de la surface, dans les eaux claires et cristallines, où il s'agissait de leur présenter le plus délicatement possible la mouche la plus appétissante pour leur livrer ensuite un dur combat. Un combat entre égaux, en quelque sorte. Les autres modes de capture, à la ligne dormante avec appât, verron ou à la traîne dans des eaux sombres et profondes avec un leurre plombé ou oscillant du type Devon, n'étaient pas réputés de valeur sportive et on les estimait avec dédain répondre plutôt à des besoins alimentaires. Les perceptions changèrent au milieu des années 1930 lorsqu'apparurent deux inventions remarquables: le nouveau moulinet de type Mitchell à tambour fixe avec arceau, monté sur une canne souple, qui prit le nom de lancer léger. Il fut doté d'une nouvelle ligne à pêche, très légère elle aussi, et surtout très résistante. Le monofilament en polypropylène mis au point en 1937 par la compagnie Dupont de Nemours. À partir de ce moment, de nouveaux adeptes d'une pêche tout aussi sportive, au doré, à la chigan, au brochet, au touladi ou à la truite, se partagèrent les accès au territoire des clubs, faisant progressivement disparaître de vieux clivages. Si le bilan général des 100 ans d'existence du régime des clubs privés a toujours été jugé très négativement, et avec raison, sur le plan social, ce sont en revanche les ressources fauniques et forestières qui ont le plus bénéficié d'une relative mise hors circuit des exploitations effrénées qui les menaçaient à la fin du 19e siècle. Bien que responsable de plusieurs dérives et abus corrigés grâce à la pisciculture, les clubs privés et surtout leurs authentiques premiers membres, les pêcheurs à la mouche, ont rendu, avouons-le sincèrement, un très grand service au patrimoine naturel du Québec. Le déclubage partiel tenté par le gouvernement Bourassa au cours des années 1970 démontre par ailleurs que sans une formule de rechange appropriée pour protéger la ressource, certains lacs ouverts prématurément au public étaient déjà en situation de surpêche. Il faudra attendre la création des ZEC en 1978 pour rétablir l'équilibre. Paul-Louis Martin est historien et ethnologue. C'était une nouvelle culture, les origines de la conservation de la faune et de la forêt, un texte de Paul-Louis Martin, paru à l'été 2023 dans la revue Cap aux Diamants.
À la défense des rats, un texte de J.B. MacKinnon, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. La légende raconte qu'en 1522, une citation à comparaître en cour est lancée contre quelques rats du diocèse d'Autun, en France, pour avoir mangé et détruit des récoltes d'orge. Barthélemy de Chasseneuse, habile juriste, est chargé de les défendre. Lorsque ses clients ne se présentent pas au tribunal, M. de Chasseneuse note que les accusés sont dispersés dans la campagne de la province et que la citation à comparaître n'a pu parvenir à tous. Et même s'il l'avait reçue, le tribunal ne leur avait pas accordé assez de temps pour faire le voyage. La procédure est reportée. Pendant plusieurs semaines, l'assignation est annoncée dans toutes les églises du diocèse. Néanmoins, lorsque la date du procès arrive, les rats brillent encore par leur absence. Ils ont évidemment raté leur rendez-vous avec la justice, car, plaide M. de Chasseneuse, pour se rendre au tribunal, les accusés devaient affronter un double péril. Des villageois vindicatifs et des chats sanguinaires. Ses clients avaient donc besoin de garanties de passage. Les deux parties ne parvenant pas à s'entendre sur la marche à suivre, l'affaire est classée. De nos jours, les rats sont considérés comme porteurs de maladies mortelles telles que la peste et l'antivirus. Ils pillent nos réserves alimentaires, rongent les fils électriques, envahissent nos maisons et ébranlent des infrastructures en creusant leurs terriers. Personne ne sait exactement combien les rats coûtent à la population mondiale annuellement, mais cela doit se chiffrer en centaines de millions de dollars. Le rat noir, Rattus rattus, et le rat brun, Rattus norvegicus, sont les deux espèces les plus répandues. Le premier vient de l'Inde et le second s'est développé à partir de la Chine et de la Mongolie. En embarquant sur des bateaux, surtout à l'époque de l'impérialisme européen, ils ont atteint de lointains ports et vivent aujourd'hui sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Destructeurs voraces de la faune et de la flore, les rats ont joué un rôle dans près d'un tiers des extinctions d'oiseaux, de mammifères et de reptiles. Avec les chats et les mangoustes, ils constituent l'une des pires espèces envahissantes de mammifères non humains de la planète. La science qualifie la relation du rat avec l'homme de « commensal », soit une association entre deux espèces d'où l'une tire des bénéfices et où l'autre n'est ni aidée ni lésée. La définition semble pourtant embarrassante, car plusieurs se sentent lésés par la simple existence des rats. Lorsqu'ils trottinent et grattent dans nos murs la nuit, ils portent atteinte à notre santé mentale. Leurs yeux en forme de bille et leur queue couleur asticot inspirent même le dégoût chez certains. La relation de l'humain avec les rats étant souvent décrite comme la guerre contre les rats, nous avons répondu par l'autodéfense. Nous les attrapons avec des pièges qui ne les tuent pas toujours instantanément et les mutilent. Nous les attirons dans des seaux d'eau où ils se noient. Nous les appâtons dans des plaques de colle où ils se déchirent la peau et se brisent les os, voire rongent leurs propres membres en tentant de s'échapper. Nous les empoisonnons à l'aide de produits dont certains entraînent une longue agonie à la suite d'hémorragies internes. Des vidéos en ligne montrant des gens en train de lâcher des chiens et des visons sur des rats sont visionnées des millions de fois. Alors que la défense de l'ennemi peut sembler sans espoir, des études brossent un portrait beaucoup moins sombre des accusés et qui pourrait même charmer le jury. Pour commencer, il faut dépoussiérer l'affaire classée qui a marqué les rats de leur péché originel, la peste noire. Cette peste a tué près d'un tiers des Européens entre 1347 et 1351, et beaucoup d'autres épidémies, moins importantes, ont suivi jusqu'au début du XVIIIe siècle. On a longtemps cru qu'elles avaient toutes la même cause. Les rats mouraient en grand nombre après avoir été infectés par la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis, et leurs puces, porteuses de la maladie, migraient vers des hôtes humains. Il n'existe pourtant aucune trace de mort de masse chez les rats avant les épidémies de peste noire. Pendant des décennies, les scientifiques se sont efforcés de justifier l'histoire du méchant rat. Mais de plus en plus de preuves ont montré qu'à l'époque de ces épidémies historiques, les rats n'étaient pas assez répandus en Europe pour propager la peste aussi rapidement et largement qu'elle l'a fait, et que les coupables les plus probables étaient notre propre hygiène déficiente, les puces et les poux. Les arguments avancés contre les accusés ne tenaient en fait pas la route. Des critiques souligneront que, même si nous les disculpons pour la peste noire, ça ne signifie pas que les rats ne sont pas nuisibles. Dans les régions chaudes, ils ont effectivement été le patient zéro d'horribles épidémies de peste, tuant des millions de personnes au fil des siècles. Bien que l'hygiène et la médecine moderne aient rendu la peste rare et guérissable presque partout dans le monde, les rats sont toujours porteurs de dizaines de maladies pouvant se transmettre à l'homme. Ils ont l'incroyable capacité des éponges, explique Chelsea Hemsworth, pathologiste vétérinaire et épidémiologiste à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Ils traversent toutes sortes d'environnements, entrent en contact avec des microbes provenant d'humains, d'animaux domestiques, d'eau usée et d'ordures, et peuvent retransmettre ces agents pathogènes aux humains ou à d'autres animaux. Il y a plus de 10 ans, la docteure Hemsworth s'est intéressée aux rongeurs. En examinant les recherches sur les rats et les maladies, elle a découvert qu'il existait peu de données scientifiques récentes sur le sujet. En 2011, elle a fondé le Vancouver Rat Project, un organisme de recherche dédié à la surveillance et à l'atténuation des risques que posent les rats pour la santé publique à Vancouver et ailleurs. Pour comprendre à quoi ressemblent vraiment les maladies chez les rats, il faut d'abord s'attaquer au mythe selon lequel ils sont des envahisseurs grouillants, une vision souvent véhiculée dans les livres et les films. En réalité, ils sont plutôt casaniers. Le Vancouver Rat Project a découvert qu'au cours d'une journée normale, les rats bruns demeuraient dans les limites d'un pâté de maison. Ils ne traversaient généralement pas les routes et des recherches menées dans d'autres zones urbaines montraient que les rats préféraient même rester d'un seul côté des ruelles. Cela signifie qu'un pâté de maison du centre-ville de Vancouver peut n'avoir aucun rat malade, alors que dans un autre, tous les rats peuvent être porteurs de maladies. Dans le cadre d'une étude similaire, réalisée à Vienne, en Autriche, et publiée en 2022, Des chercheurs ont capturé des rats pendant 2 ans sur une population promenade fluviale, une place touristique et un port de croisière. Ils les ont ensuite soumis à des tests de dépistage de 8 virus dangereux que les rats sont reconnus pour héberger, notamment des souches d'hépatite, de coronavirus, d'antavirus et de grippe. Aucun d'eux n'était porteur de ces maladies. Les auteurs ont noté que les études qui ne révélaient pas la présence de maladies chez les rats étaient rarement publiées. Vous écoutez « À la défense des rats », un texte de J.B. MacKinnon, paru en avril 2024 dans « Sélection du Reader's Digest ». Les rats viennent avec des idées fausses. Par exemple, ils sont agressifs, n'est-ce pas? Bobby Corrigan, rodentologue et expert en lutte antiparasitaire à New York, a déclaré qu'il n'avait été mordu par un rat dans un égout qu'une seule fois au cours de sa longue carrière et je m'étais retrouvé au beau milieu de ces animaux. Les rats sont sales? En fait, ils sont tellement soigneux, selon une scientifique, qu'ils se sont dépêchés de nettoyer l'encre permanente qu'elle avait utilisée pour faire des marques d'identification sur leur queue. Le peu d'informations dont nous disposons sur la fréquence à laquelle les rats transmettent des maladies aux humains est encore plus surprenant. Nous n'en avons aucune idée, déclare la docteure Hemsworth. Tout rat que vous rencontrez est potentiellement porteur d'une maladie, mais en général, le risque est faible, en particulier pour les Canadiens. La plupart des habitants des pays riches vivent dans des maisons propres et solides et disposent des ressources nécessaires pour enrayer une grave infestation de rats. En revanche, une personne vivant dans un logement insalubre dont l'hygiène est affectée par des problèmes de santé mentale et dont le propriétaire refuse d'agir lorsque les problèmes de rats s'aggravent, court plus de risques. En outre, si les maladies transmises par les rats constituent notre principale préoccupation, nos tactiques actuelles peuvent être contre-productives. Tuer les rats à l'aide de pièges ou de poison peut perturber leur structure sociale, créant un chaos dans lequel les rats peuvent propager des maladies, notamment en se battant pour dominer leurs congénères. Il peut en résulter une augmentation des maladies parmi les rats survivants. C'est une idée controversée, mais les rats pourraient faire des compagnons convenables aux humains. Selon des chercheurs du Bernstein Center for Computational Neuroscience à Berlin, ils peuvent apprendre avec une rapidité surprenante à jouer à la cachette. Par exemple, quand l'humain qui les cherchait les trouvait, il les chatouillait brièvement du bout des doigts. Des études antérieures ayant démontré que la plupart des rats appréciaient ce stimulus. Quoi qu'il en soit, les rats étaient clairement motivés par le jeu. Lorsque c'était leur tour de chercher, ils sortaient d'une boîte à couvercle, fouillaient systématiquement l'aire de jeu, puis filaient droit vers leur proie dès qu'ils l'apercevaient. Lorsque leur tour venait de se cacher, certains repartaient vers une nouvelle cachette dès qu'on les trouvait, prolongeant ainsi l'excitation du jeu. Les chercheurs ont noté que les rats effectuaient des Freudensprung, un mot allemand signifiant « saut de joie ». Ils émettaient également le genre de gazouillis ultrasoniques associés à ce que les scientifiques appellent des états affectifs positifs. Une grande partie de ce que nous savons sur l'univers émotionnel et intellectuel des rats repose sur les expériences que nous menons sur eux. Une industrie artisanale d'élevage de rats bruns pour des expériences de laboratoire est apparue en Europe au milieu des années 1800. La production industrielle de rats de laboratoire a débuté en 1906 à l'Institut Wistar d'anatomie et de biologie de Philadelphie. Aujourd'hui, près de la moitié des rats de laboratoire sont issus de la colonie de Wistar. Il s'agit principalement d'albinos choisis pour leur uniformité génétique et leur calme. Au fil du temps, l'utilisation de rats comme sujet d'expérience par les scientifiques a commencé à révéler la possibilité que les rats, et donc d'autres animaux, possédaient des qualités que l'on croyait jusqu'alors réservées aux êtres humains. En 1959, le psychologue américain Russell Church a découvert que les rats apprenaient à ne plus appuyer sur un levier leur fournissant une friandise, quand ce geste entraînait une décharge électrique sur un rat dans une cage adjacente. Il s'agissait d'une première étude suggérant la capacité des rats à reconnaître qu'un de leurs congénères souffrait et qu'ils pouvaient le soulager. D'autres expériences en laboratoire ont montré que les rats peuvent résoudre des énigmes complexes, reconnaître des relations de cause à effet, éprouver des regrets, porter des jugements basés sur la perception et comprendre le temps, l'espace et les nombres. Dans des vidéos publiées en ligne par des propriétaires de rats de compagnie, on peut voir des rats entraînés effectuer des parcours d'agilité, hisser de petits drapeaux en tirant sur de petites cordes avec leurs doigts délicats et lire des pancartes leur indiquant de sauter sur une boîte ou de tourner autour. Les rats semblent même doués de métacognition. Ils ont aussi une personnalité. Presque tous les chercheurs à qui j'ai parlé et qui ont travaillé avec des rats, se souviennent d'individus en particulier et de leurs traits de caractère. Lazarus, par exemple, était le favori de Kaylee Byers, qui a capturé et relâché environ 700 rats dans le cadre du Vancouver Rat Project. Madame Byers pensait que Lazarus était mort lorsqu'elle l'a trouvé immobile dans l'un de ses pièges. Mais il semble qu'il était simplement anormalement détendu. Après avoir été capturé la première fois, il est revenu se faire prendre encore et encore. Il mangeait l'appât au beurre d'arachide et à l'avoine, puis attendait d'être relâché, comprenant sans doute que Kaylee ne lui ferait aucun mal. Que faire des rats, alors? La réponse, surprenante, rappelle la demande de Barthélemy de Chasseneuse d'entendre les rats. Il faut communiquer avec eux. Si nous ne voulons pas de rats dans les parages, nous devrions être plus attentifs aux signaux que nous leur envoyons, du genre « Hey, il y a plein de nourriture ici !» dont nous ne nous soucions pas vraiment, explique Becca Franks, professeure adjointe en études environnementales à l'Université de New York, qui a étudié les rats. Pour la professeure Franks, la solution aux dégâts causés par les rats dans nos maisons réside dans des infrastructures peu sexy. Concevoir les bâtiments de manière à exclure les rats. Mettre les ordures dans des conteneurs à leur épreuve. Adopter des règlements donnant aux locataires le droit de vivre dans des logements exempts de rats en obligeant les propriétaires négligents à rendre des comptes. Vous écoutez « À la défense des rats », un texte de J.B. MacKinnon paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Dans les années 1920, lassés des infestations de rats sur leurs bateaux, les marins se sont résolument tournés vers la dératisation. Pour cela, il fallait penser comme un rat, bloquer les voies d'accès, stocker la nourriture dans des conteneurs impénétrables et boucher tous les recoins utilisés pour la nidification. Un navire a ainsi réussi à réduire sa population de rats de 1177 à zéro. Grâce à des réglementations et à des mesures incitatives financières, les navires à l'épreuve des rats se sont largement répandus au milieu des années 1930. Les rongeurs font toujours partie de la vie maritime, mais dans une bien moindre mesure. Nous apprenons à coexister avec d'autres espèces sauvages, autrefois considérées comme de la vermine ou des mangeurs d'hommes, notamment les loups, les ours, les coyotes et les castors. Comme le disait l'écologiste américain Aldo Leopold, la gestion de la faune est relativement facile, la gestion de l'homme difficile. Les ours peuvent être de bons voisins, mais pas s'ils sont accros aux poubelles qu'ils peuvent facilement forcer. Les loups peuvent vivre à nos côtés pratiquement sans être vus, mais pas si nous les nourrissons à la main pour prendre un égoportrait. Les rats peuvent être nos compagnons de l'ombre, mais pas si nous jetons tellement de nourriture que certains, et c'est vrai, préfèrent le chinois à l'italien ou l'inverse. Peut-être devrons-nous nous entendre sur un point qui nous échappe aujourd'hui. Les créatures ont le droit d'exister conformément à leur nature, même si leur nature est de causer des ennuis à l'humanité. C'était « À la défense des rats », un texte de J.B. MacKinnon, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest.